RCF. RCF, l'entretien de la semaine.
Si la présence chrétienne, et notamment catholique, est extrêmement minoritaire aujourd'hui au Japon, il y aurait environ 430 000 catholiques, 2 millions de chrétiens sur une population de 127 millions d'habitants. L'histoire des chrétiens du Japon est absolument passionnante. Une histoire où alterne expansion rapide et tragédie, interdiction. Du 15 mars au 13 juillet 2024, les missions étrangères de Paris proposent une exposition intitulée « Des samouraïs au manga, l'épopée chrétienne au Japon ». Sylvie Morishita, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des commissaires de cette exposition, une grande spécialiste de l'histoire des chrétiens du Japon. Alors comment présenteriez-vous d'abord l'idée maîtresse de cette exposition ?
L'idée maîtresse est de retracer en fait, et c'est très audacieux, les 400 ans finalement de présence du christianisme au Japon, donc des samouraïs donc du XVIe siècle jusqu'à notre époque. C'est pour ça qu'on a parlé des mangas, donc retracer l'ensemble de l'histoire du catholicisme au Japon.
Alors si cette exposition a lieu ici aux Missions étrangères de Paris, c'est pas tout à fait un hasard. Il y a quand même un lien très fort entre les Missions étrangères de Paris et le Japon.
Bien entendu, puisque les pères des Missions étrangères de Paris ont été les missionnaires qui ont été envoyé au Japon à partir de 1858, lorsque le Japon s'est finalement ouvert, après 200 ans de fermeture. Et ce sont ces missionnaires qui sont entrés en contact avec les descendants de chrétiens de la région de Nagasaki à partir du 17 mars 1865.
Ce qu'on appelle les fameux chrétiens cachés, dont on aura l'occasion de reparler dans un instant. Donc c'est important de comprendre que les premiers contacts avec le Japon, de la part des chrétiens, c'est le XVIe siècle, mais pas avec des prêtres des missions étrangères de Paris, plutôt avec des jésuites.
Avec les jésuites, oui. Mmh. Dans le cadre de l'expansion des Portugais en Extrême-Orient, les jésuites avaient été chargés du soin spirituel des Portugais, et c'est ainsi que François Xavier avait été amené à voyager dans les différents pays où les Portugais étaient implantés, et c'est ainsi qu'il est arrivé au Japon en 1549, 6 ans après les premiers marchands portugais qui étaient arrivés au Japon.
Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à cette époque-là, le christianisme s'est développé très rapidement au Japon.
Très rapidement. Alors au début, les débuts ont été très très difficiles. Hein. Quand on se penche attentivement sur les premières années, ce sont des hommes qui doivent tout apprendre, la langue et les coutumes, alors que le Japon est un pays en proie aux guerres civiles, le pays est extrêmement instable, ils n'ont aucun protecteur nulle part, donc les débuts ont été très difficiles.
Mais on parle d'une expansion rapide
oui,
à ce moment-là.
Oui, à partir de dans les années 1560, pourquoi ? Parce que les premiers daimyo, c'est-à-dire les seigneurs féodaux, les premiers daimyo vont accepter le baptême. Un dans la région de Nagasaki et l'autre dans la région de Miyako, c'est-à-dire Kyoto. Et à partir de ce moment-là, oui, étant donné qu'ils auront le soutien de certains daimyo, ils vont faire beaucoup de conversions, oui.
Et alors, Sylvie Morishita, pourquoi y a-t-il eu ces fameuses persécutions que l'on a pu voir dans le film de Scorsese, Silence par exemple?
Oui, le film de Scorsese représentait tout à fait le Japon le Japon de cette époque. Alors, il y a beaucoup de facteurs, en particulier le fait que à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, la situation politique du Japon change complètement. Lorsque les jésuites arrivent, je l'ai dit, le pays est en proie aux guerres civiles et à l'instabilité. Mais à la fin du XVIe siècle, la situation a changé et des hommes forts vont œuvrer à la réunification du Japon et instaurer un régime très centralisé.
Et le christianisme est vu comme une menace étrangère.
Voilà. Et il n'y avait pas de place pour le christianisme dans ce nouveau régime. Mais il y a peut-être aussi d'autres régions. Personnellement, je pense que une des raisons viendrait aussi du fait que les jésuites ont toujours axé leur pastoral, mais les autres également, hein, les ordres mendiants lorsqu'ils vont venir aussi, ils ont axé leur pastoral sur la polémique avec le bouddhisme. Et forcément, les Japonais n'ont pas accepté, finalement. Donc à partir de 1614, le christianisme est interdit, les prêtres sont expulsés et les chrétiens pourchassés.
Alors, qu'est-ce que l'on appelle les chrétiens cachés qu'on va découvrir dans cette exposition et qu'on découvre dans cette histoire incroyable des chrétiens du Japon? Qu'est-ce qu'on appelle les chrétiens cachés?
Personnellement, je trouve que le vocabulaire n'est pas ajusté. Parce que chrétiens cachés, il y en a plusieurs sortes de chrétiens. En fait, jusqu'en 1865, les descendants de chrétiens ne sont pas visibles dans la société japonaise. Ils se cachent.
Parce qu'ils sont menacés de mort.
Ils sont menacés de mort, mais parce qu'il y a tout un ensemble de lois qui interdit le christianisme et qui les contrôle étroitement. Donc, ils se sont rendus invisibles, mais souterrainement, clandestinement, ils se sont transmis la foi. Mais à partir de 1865, étant donné qu'ils entrent en contact avec les pères des missions étrangères, ils arrivent à la conscience aussi des historiens. Et à partir de ce moment-là, on voit dans les lettres des missionnaires deux sortes de chrétiens, ceux qui sont restés catholiques, qui acceptent les missionnaires, et puis ceux qui restent à l'écart. En japonais, ceux qui restent à l'écart, on les appelle les kakure christians, bien qu'ils ne soient plus chrétiens maintenant, mais ils ne sont plus chrétiens, ils ont gardé des éléments, mais ils ne sont plus chrétiens.
Ce qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est que pendant plus de 200 ans d'interdiction du christianisme, au risque de leur vie, des hommes et des femmes, discrètement, sans présence de prêtres, ont pu garder la foi chrétienne.
Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un cas pratiquement unique dans l'histoire de l'Église catholique.
RCF, l'entretien de la semaine.
Sylvie Morishita, parlons maintenant de la réouverture du Japon. Et à ce moment-là, des prêtres des missions étrangères arrivent là-bas. Et là, c'est le renouveau du christianisme au Japon.
Oui, à partir de la construction de la première église à Nagasaki, église qui a été construite au-dessus du port. Et c'est très intéressant de voir que ce sont des chrétiens d'un village qui s'appelle Urakami, qui est au fond de la baie, donc à 6 km du port, qui viennent jusqu'à l'église et qui se présentent au père Petit-Jean en disant « Notre cœur est comme le vôtre ». Et ils vont demander à voir la statue de la Vierge Marie, et devant leur réaction devant la statue, le père Petit-Jean va comprendre qu'il est en train de parler à des descendants de chrétiens. Et là, c'est vraiment la résurgence de ces chrétiens, et les pères des missions étrangères vont consacrer le meilleur de leurs forces à ces chrétiens pendant des dizaines d'années.
Dans cette exposition, l'épopée chrétienne au Japon, on parle aussi de la présence des chrétiens aujourd'hui au Japon. Que représente, je dirais, cette communauté catholique, cette petite communauté catholique, je le disais, d'à peu près 430 000 personnes? C'est rien, c'est 0,2% de la population japonaise, à peu près. Qu'est-ce qu'il représente au Japon?
Au Japon, alors souvent l'Église, enfin les catholiques au Japon, l'Église, on va dire, aux catholiques au Japon, s'est fait respecter par ses institutions éducatives et hospitalières. Mais cependant, l'Église catholique reste très très marginale, et les conversions ne se sont pas du tout faites dans les mêmes conditions qu'au XVIe siècle. Il n'y a pas eu cet accueil du catholicisme à partir du XIXe siècle. Et le gros des troupes catholiques reste autour de Nagasaki, dans les îles et les montagnes.
Donc dans le sud du Japon.
Le sud-ouest du Japon.
Il y a pourtant une très grande université à Tokyo, non, qu'on
appelle Sophia. L'université Sophia, oui, ouais. qui a été fondée par les jésuites, justement en 1913, parce que les catholiques japonais ressentaient le besoin d'avoir une université pour éduquer l'élite catholique qui commençait à se manifester.
Alors Sylvie Morishita, qu'est-ce que les visiteurs de cette exposition, l'épopée chrétienne au Japon, qui a lieu aux missions étrangères de Paris, au 128 rue du Pâque, qu'est-ce qu'ils vont découvrir comme, je dirais, objet particulièrement intéressant pour évoquer cette histoire?
Jacques-Charles Gaffiot, qui a été le maître à penser de toute cette exposition, a demandé à insister pour que nous rassemblions autant que possible de vrais objets, pas simplement des reproductions, mais de vrais objets. Alors, forcément, pour le 19e siècle, par exemple, les lettres des missionnaires, mais c'était beaucoup plus difficile pour le 16e siècle. Nous avons réussi quand même à trouver des gravures, par exemple. Nous avons pu obtenir une représentation du frontispice du premier livre jamais imprimé au Japon par les jésuites en 1591, livre dont il existe un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France chez nous.
Il y a eu beaucoup d'objets qui ont été aussi prêtés par le Portugal.
Ah, oui.
Et puis il faut dire qu'il y a de très beaux objets japonais en nacre. Il y a un paravent magnifique.
Oui, nous avons eu beaucoup de chance parce que les Portugais ont été très généreux dans leurs prêts pour cette exposition. Donc nous avons par exemple un meuble en bois laqué incrusté de nacre.
C'est magnifique.
C'est très beau et c'était des objets très 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 appréciés de l'élite en fait internationale et qui ont été exportés du Japon au XVIe siècle. On a aussi un panneau d'interdiction du christianisme qui date de 1868 parce qu'il faut, c'est l'occasion de dire, dans toutes les villes et les villages japonais, il y avait des panneaux qui rappelaient que le christianisme était interdit. Et donc, nous avons pu en obtenir un d'une collection privée.
En quoi cette exposition, finalement, révèle une facette très peu connue du christianisme est particulièrement intéressante.
Oui, d'abord, les catholiques français ne connaissent pas beaucoup cette histoire. Je me rends compte, lorsque je donne des conférences, les gens découvrent absolument cette histoire, qui est une épopée, c'est vrai, sur bien des points, parce que les jésuites ont réussi à faire. Par exemple, ils avaient fondé une école d'art à Nagasaki, où ils ont introduit les techniques et les modèles européens. Mais c'est surtout, je pense, mais c'est peut-être un avis personnel, que c'est par cette extraordinaire résistance des chrétiens japonais qui se sont transmis la foi pendant 250 ans, sans prêtre, avec très peu d'écrits.
Merci beaucoup Sylvie Morishita de nous avoir présenté cette exposition que je recommande vraiment, une exposition qui se tient au 128 rue du Bac à Paris du 15 mars au 13 juillet 2024.
Merci à vous.